Bonjour Martine Dugan.
Bonjour Madame Paquette.
Je le disais d'entrée de jeu, jouer pour les enfants, c'est du sérieux et dès le plus jeune âge, ça semble plutôt inné pour eux, plutôt simple, on n'a pas besoin de leur montrer. Est-ce que c'est aussi important pour les enfants qui ont des besoins particuliers?
En fait, le jeu est très important pour tous les enfants. Maintenant, les enfants qui ont des besoins particuliers, en fait, c'est un peu leur travail hein, de jouer. Les enfants sont dans le principe du plaisir, tout ça. Puis, c'est à travers le jeu qu'ils vont se développer vraiment au niveau de toute leur sphère développementale, hein, le langage, au niveau cognitif, faire des associations, des connaissances, ou acquérir des connaissances, tout ça, au niveau social également. Mais pour les enfants qui ont des besoins particuliers, eux, ils vont avoir peut-être l'envie, mais ils vont avoir des défis ou des retards au niveau de leur développement qui leur permettront pas là, d'accéder à un même niveau en termes de qualité, peut-être au niveau du jeu.
Mais ils ont tout de même cette envie-là. C'est juste qu'ils ont besoin peut-être plus d'encadrement pour le faire.
Oui, dans le fond, tout dépendant de ce qu'a l'enfant, hein, parce que les enfants qui ont besoin des besoins particuliers, bon, oui, ce sont des enfants qui ont des défis, des retards. Il y a des enfants qui présentent des troubles, des syndromes génétiques, une déficience intellectuelle. Donc, tout dépendant de l'enfant, de son tempérament aussi et du trouble ou de la particularité qu'il présente, l'intérêt peut varier. Par exemple, si on a un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, ben de par son trouble, il a des particularités qui font en sorte qu'il n'aura pas les mêmes intérêts au niveau du jeu que les enfants qui ont un développement plus typique. Je peux faire référence, par exemple, à ces enfants-là vont aller plutôt vers des jeux qui sont plutôt répétitifs. Mm-hmm. Donc, placer les objets. Donc, si j'ai un set de couverts et d'aliments, je vais peut-être m'amuser à les placer au lieu de faire semblant avec les jeux. Ils vont peut-être préférer aligner les jouets, donc placer les voitures en ligne, les faire tourner, les explorer d'une façon différente des autres enfants. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas l'intérêt, c'est plutôt peut-être une incapacité à comprendre quoi faire avec ce jeu-là et ils vont être moins tentés également à aller vers des jeux qui sont plus sociaux et imaginaires parce que pour eux, générer des nouvelles idées est très difficile.
Ouais, et j'imagine aussi que puisque leur développement est différent, les jeux qui les intéressent ne sont pas les mêmes que ceux des enfants qui ont le même âge.
Non, c'est ça. Bien, tout d'abord, il faut toujours considérer le niveau développemental de l'enfant. Hein, si un enfant a 4 ans, mais présente une déficience intellectuelle, parce que, bon, là, j'ai parlé de l'autisme, mais il y a d'autres particularités, bien, c'est sûr qu'on n'ira pas offrir à un enfant de 4 ans qui a peut-être un âge développemental d'un an le même jeu que les autres enfants vont s'intéresser à 4 ans, par exemple. Donc, il faut toujours essayer de voir quel type d'enfant j'ai devant moi, quels sont ses intérêts, quelles sont ses forces pour pouvoir choisir, dans le fond, le jeu le plus approprié pour lui.
Martine Dugas, vous êtes psycho-éducatrice. Est-ce que vous savez si dans les garderies, les centres de petite enfance ou, bon, n'importe quel autre lieu qui accueille les enfants, nous, aujourd'hui, on s'intéresse aux 0-5 ans, âge préscolaire, est-ce que les adultes en place, là, prennent compte des besoins particuliers des enfants dans leurs propositions de jeu?
Oui, de plus en plus. C'est sûr que dans leur réalité, parfois les groupes sont composés de 8 enfants. Des fois, il y en a un ou deux avec des besoins particuliers, des fois au niveau du langage, des fois de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Donc, c'est difficile pour eux de toujours tout adapter, mais ils sont de plus en plus ouverts à l'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers et à justement là, mettre en place les adaptations que les différents professionnels leur proposent. Donc, c'est sûr que pour nous, on est bien heureux de ce dénouement-là. Et puis, souvent, les milieux reçoivent également là, des aides financières qui leur permettent de faire l'achat de matériel spécialisé là, qui a été proposé par le professionnel et donc de mettre en place là, des adaptations dans le milieu.
Donc, après ça, ça devient une collaboration entre le parent et l'intervenant ou bon l'éducatrice de dire « mon enfant a tel type de besoin, est-ce possible de les respecter aussi dans la routine? »
Oui, c'est sûr qu'il faut une ouverture du milieu. Ce ne sont pas tous les milieux, ce ne sont pas toutes les éducatrices. Hein. Il y a des dames qui se retrouvent seules à la maison avec 6 enfants, donc c'est pas la même réalité qu'en CPE où parfois il y a une aide, ouais. Une conseillère pédagogique qui peut soutenir aussi, mais normalement les gens se montrent très ouverts parce que ça va favoriser une meilleure qualité au quotidien pour l'intégration de cet enfant-là.
Martine, ensemble, on a parlé des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle aussi. Quand je pense à besoins spéciaux, je pourrais penser également à des enfants qui ont des hypersensibilités. Est-ce que ça entre dans besoins particuliers?
Oui, souvent, les enfants, que ce soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou, je sais pas moi, des enfants qui ont certains syndromes ou justement le trouble du spectre de l'autisme, souvent, il y a des particularités sensorielles qui sont associées. Donc, ce sont des enfants qui vont être réfractaires à certaines textures, comme par exemple, si on leur offre de la pâte à modeler, ils pourraient faire une crise. On peut penser que c'est comportemental, mais ça va être en lien plutôt avec la texture du jeu ou des jouets qui, si on fait un jeu très bruyant avec les autres enfants ou si les enfants sont trop près dans la bulle de l'enfant. Donc oui, tous les bruits, en fait, tous les sens peuvent être perturbés chez les enfants qui ont des besoins particuliers. Bien entendu, ça dépend toujours de l'enfant, là, c'est du cas par cas.
Ouais. Du point de vue de la dextérité, est-ce que c'est un problème également?
Oui, en fait, si on fait référence à certains jeux, par exemple, certains jouets, si on pense à l'enfilage, ben de petites perles vont peut-être être faciles à enfiler pour certains enfants. Mais pour un enfant qui a une difficulté au niveau de la coordination oculomanuelle ou seulement la dextérité, le moteur fin qui est difficile, l'appréhension, ben faudrait peut-être adapter avec des plus grosses perles ou la même chose pour les casse-têtes. Les poignées de casse-têtes, des fois, sont petites, donc faut y aller vers des plus grosses. Donc, effectivement, au niveau moteur, il y a plusieurs adaptations qui doivent être faites parfois.
Et ordre général, en ce qui a trait à la compréhension, est-ce que les consignes doivent demeurer simples ou pas nécessairement?
Bien, il faut toujours s'adapter à l'enfant qu'on a devant nous. C'est sûr que si on a un enfant dont la compréhension a été jugée déficitaire, bien, il faut adapter beaucoup la façon qu'on va l'expliquer. Il faut amener des modèles. Il faut donc montrer à l'enfant à imiter, même si des fois l'imitation est déficitaire également. Donc, on peut utiliser aussi des dessins ou écrire des étapes, montrer des étapes de façon visuelle à l'enfant ou lui donner des repères que les autres enfants n'ont pas besoin pour faciliter, dans le fond, sa compréhension. Je peux faire référence, par exemple, au jeu des canards qui tournent et qu'il faut choisir un canard de la forme qu'on a. Donc, ça peut être un cercle rouge, un triangle jaune. Eh bien, dans ce jeu-là, il n'y a pas de support visuel, par exemple, pour que l'enfant sache qu'il doit ramasser les cercles rouges. Donc, on peut en ffabriquer un. Donc, faire un petit carton avec 4 cercles rouges. Et là, l'enfant sait que lui, il faut qu'il ramasse et qu'il perd le cercle rouge avec le cercle rouge. Donc, c'est une façon d'adapter un jeu, de rajouter quelque chose pour que l'enfant puisse mieux le comprendre.
Oui. Martine Dugas, vous qui travaillez auprès de cette clientèle, on a parlé tout à l'heure des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme dans leurs intérêts, mais est-ce qu'ils ont d'autres intérêts, ces enfants-là? Est-ce qu'ils aiment se déguiser, par exemple, ou faire du coloriage?
Bien, en fait, ils ont des intérêts parfois qu'on appelle restreints, c'est-à-dire qu'un enfant peut adorer les dinosaures, collectionner des connaissances sur ce sujet-là, ou peuvent aimer vraiment à outrance un super-héros et donc investir que sur ce super-héros-là. Donc, possiblement qu'ils vont vouloir se déguiser avec ce costume-là, mais de générer des nouveaux costumes, de générer des nouvelles idées, de vouloir partager un jeu imaginaire, c'est vraiment une difficulté pour eux. Et donc, de pouvoir créer et faire des scénarios, ça ne sera pas leur force. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à aller plus vers des jeux, comme je vous disais tantôt, plus répétitifs. Ouais. Et ils peuvent se déguiser, mais c'est possible que le jeu imaginaire auquel ils vont accéder, il va être répétitif en soi parce que ça devient rassurant, c'est du connu et puis c'est difficile pour eux de générer, là, comme je disais, des nouveaux scénarios.
En tant qu'adulte ou parent, là, est-ce qu'on doit favoriser de nouveaux scénarios, tenter de stimuler l'imaginaire de ses enfants ou plutôt respecter leurs besoins, leur amour de la routine?
Mais moi, je pense qu'il y a un dosage à faire entre les deux. Si on demeure dans la routine et on les laisse seulement répéter, c'est sûr qu'on les ouvre pas à d'autres apprentissages et on les ouvre pas justement à s'insérer dans un nouveau groupe avec des enfants qui ont des nouvelles idées. Donc, s'ils restent toujours rigides dans leur façon de faire, ben les autres enfants vont aller voir ailleurs parce que les autres enfants, eux, sont à un niveau vraiment exploration et d'ouverture à l'autre et de créer des nouveaux scénarios et surtout de s'ajuster aux nouvelles idées des autres. Donc, moi, je pense qu'il faut leur montrer, mais en allant peut-être à leur rythme, en utilisant des façons de faire qui vont les rejoindre, qui vont être adaptées pour eux. Mais oui, effectivement, moi, c'est mon travail là, de demander aux parents d'élargir ces aspects-là.
Et l'une des difficultés, et j'en parlais hier avec Jean-François Vizina, c'est également dans son livre, c'est que les enfants, quand on les observe jouer, souvent, ils arrêtent même en plein cœur du jeu pour soudainement changer les règles et « OK, on repart avec ces nouvelles règles-là, que ce soit jeu de ballon ou autre jeu. » Pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, ça peut devenir extrêmement difficile à suivre de jouer avec les autres.
Oui, parce que comme je le disais tantôt, générer une nouvelle idée, mais c'est aussi le fait que quand je ne sais pas ce qui s'en vient, ça génère de l'anxiété aussi. Donc, quand les enfants se retournent comme ça rapidement et changent le jeu, l'enfant qui avait commencé quelque chose, qui commençait à être bien ou peut-être qui était rendu à un niveau qui était capable d'avoir un certain contrôle sur le jeu, eh bien, d'arriver comme ça à changer rapidement, ça génère de l'anxiété. C'est souvent là que les enfants vont décider d'aller jouer seuls parce qu'ils vivent des échecs. Et donc, face à l'incapacité de s'ajuster, hein, c'est une question d'ajustement, ben, ils vont préférer peut-être retourner à leur jeu répétitif.
Et là, ça devient triste, là, évidemment, parce que ça les isole.
Oui, ça les isole, mais il faut savoir que des fois, c'est peut-être un besoin pour eux d'aller justement se ressourcer pour mieux revenir après. Ce qui est important de savoir, que c'est le dosage que je disais tantôt, il ne faut pas toujours les laisser s'isoler dans leur jeu répétitif, mais ça peut répondre à un besoin pour eux là pour se calmer, justement.
Quels sont les jeux, Martine Dugan, qui pourraient être plus adaptés pour eux? Je m'adresse bien sûr aux parents à la maison qui parfois ont peut-être pas tout le soutien nécessaire ou le temps là, d'imaginer des jeux qui conviennent à leurs enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de soutien, de support visuel. Est-ce qu'il y a d'autres tactiques?
Oui, dans le fond, ben pour aider, dans le fond, c'est vraiment autour de l'adaptation de l'environnement, d'adapter le temps et d'adapter le jeu. Par exemple, adapter l'environnement, on peut faire des bacs qui sont identifiés pour que l'enfant s'y retrouve plus facilement, des coins définis. On peut faire aussi une rotation des jouets. Moi, je suis pas pour l'achat absolument de matériel spécialisé qui coûte extrêmement cher. Moi, je suis plus pour l'adaptation d'un jeu, peut-être diminuer les règles avec ce même jeu-là, cacher certaines parties du jeu ou le rendre un jeu plus attrayant ou utiliser du matériel qui fait du bruit ou des choses des choses comme ça.
Donc, lumineux aussi, hein?
Lumineux, qui font du bruit, comme par exemple, si l'enfant ne comprend pas comment se servir d'une marionnette parce que ça ne fait pas de sens pour lui, ben on peut le faire chatouiller avec la marionnette, on peut faire des bruits drôles avec la marionnette ou on peut utiliser une marionnette qui lui parle plus selon ses intérêts à lui. Quand je dis adapter le temps, on peut mettre un temps de jeu à l'horaire. On peut essayer de le mettre à l'horaire de l'enfant pour lui montrer que c'est important et qu'on s'attend de lui qu'on joue pendant, par exemple, 5 minutes avec une minuterie. Pour stimuler ça, on peut également coincer un nouveau jeu, peut-être, qui va générer de l'anxiété, mais entre deux jeux intéressants pour l'enfant, donc dans l'horaire. Donc, on pourrait dire, voici, on va faire quelque chose de répétitif avec ces jeux-là. Ensuite, je vais te demander un petit 5 minutes, on va jouer à ce nouveau jeu de mémoire-là, et après, tu pourras retourner à ton jeu que tu aimes beaucoup.
Ah oui, c'est bien ça, quelque chose que tu aimes, que tu connais, on essaie quelque chose de nouveau, et le retour à ton jeu préféré, par exemple.
Exactement, donc ça stimule. L'idée, c'est d'y aller doucement, de peut-être changer une variante à la fois. Donc, si, je sais pas, moi, l'enfant se déguise toujours en Batman et fait toujours les mêmes paroles, on peut amener un petit imprévu de dire, ah oh, là, Batman, Batman a perdu son masque, par exemple. Et là, pour essayer de générer ça va générer un peu d'anxiété, mais pour essayer d'amener une petite variante au jeu, puis voir comment on peut aider l'enfant à générer des nouvelles idées, puis éventuellement à s'adapter dans un jeu avec d'autres enfants là, qui génèrent beaucoup de nouvelles
idées. Oui, et puis on s'intéressait davantage, nous ensemble, Martine, aujourd'hui aux enfants d'âge préscolaire, mais à un moment donné aussi, les enfants vont à l'école et là, il y a des stimuli, des consignes multiples et bien autres, là.
Oui, puis quand ils sont petits, c'est important de développer ça parce que justement, les autres enfants s'en rendent moins compte aussi. Mais plus le décalage est grand quand l'enfant vieillit, plus le décalage entre le jeu, son jeu à lui et le jeu des autres, ben c'est là qu'il risque de vivre plus de rejet, dans le fond, rendu en âge au niveau scolaire, là.
Et quand vous parliez de simplifier, ça peut être de cacher certaines pièces, par exemple, si dans un jeu, on a besoin de 6 éléments, ben on se concentre sur 3.
Exactement. Par exemple, si on veut faire encastrer des formes, avec notre main, on peut tout simplement en cacher 2 sur 4. En fait, le but, c'est de faire vivre des succès à l'enfant pour que l'enfant ait envie de le refaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser des modèles visuels. Si je prends, par exemple, Monsieur Patate, mais Monsieur Patate, pour nous, c'est très simple de se dire, bon, faut mettre les bras, les yeux, le nez, la bouche, tout ça, mais pour un enfant qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas c'est quoi qu'on s'attend de lui avec ces pièces-là, mais on pourrait, par exemple, prendre en photo un Monsieur Patate déjà terminé ou prendre toutes les étapes et les mettre sous forme de justement d'étapes, comme tu mets les yeux en premier, le nez, la bouche, les bras et à la fin, tu arrives à un Monsieur Patate terminé. Même chose pour le jeu symbolique, le jeu de faire semblant, étant donné que ce sont des enfants qui génèrent pas facilement des idées, on pourrait très bien prendre une image de, par exemple, du garage Playmobil et autour, on met plein d'exemples de ce qu'on peut faire. On peut faire rouler l'auto, on peut avoir un accident, on peut mettre de l'essence dans la voiture. Donc, pour montrer à l'enfant qu'il y a d'autres variabilités qu'on peut faire que juste aligner les voitures, par exemple.
Martine Dugas, c'était tellement intéressant. Merci beaucoup. Vous êtes psychoéducatrice au Centre de psychologie et d'éducation du Mont-Saint-Hilaire, également collaboratrice comme experte pour le site web de IOPA. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous, que j'ai entendu parler davantage sur le sujet parce que vous avez signé un article sur comment développer le jeu chez les enfants qui présentent des besoins particuliers. Et pour en savoir davantage, www.martinedugas.ca. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.